musique par le Père Marie Dominique Philippe à Rimont le 12 février 2002.
Alors on est plongé dans l'Afrique. Alors maintenant il faut prendre la personne. Pas encore pour se poser la question, y a-t-il un caractère particulier à la personne africaine? C'est pas ça que je veux voir, mais on le verra ensuite. Je vois d'abord les questions posées, n'est-ce pas? Vous avez parlé de la lutte avec l'imaginaire pour acquérir la prudence. Qu'est-ce que le philosophe pourrait dire dans un jugement de sagesse de l'exaltation de l'image et de l'imaginaire dans notre monde actuel? Et dans un regard de sagesse chrétienne, est-ce le démon? C'est très dangereux, parce qu'on risque d'étouffer l'intelligence. On risque, et je crois que c'est le grand danger, c'est pas seulement, c'est ce que me disait un père de famille que j'aime beaucoup, intelligent, il soutient beaucoup notre effort de philosophie sur Paris. Il a été banquier, donc il connaît bien le monde d'aujourd'hui. Et puis, c'est quelqu'un du nord de la France, en plus de ça. Alors, il disait, cette jeunesse qui monte, il me parlait de ses enfants, vit dans le virtuel. C'est son langage. Hein. Et n'atteint plus le réel. Ils vivent sur le possible, les possibilités. Une imagination extraordinairement fertile. À 10 ans, et au fond, on tend à supprimer tout ce qui pourrait corriger cela en exaltant énormément les mathématiques. On construit un monde mathématique avec le développement du virtuel et de l'imaginaire. Et je crois que c'est assez vrai. Il me dit, je me mets à l'école de ces jeunes, il a 60 ans, je me mets à l'école de ces jeunes pour essayer de comprendre ce qu'est leur perspective. Et je suis moi-même très étonné de voir qu'au bout d'un certain temps, on ne pense plus que virtuel. Un monde virtuel. On vit dans un monde virtuel. On n'a plus les pieds sur terre. On a des petites ailes virtuelles qui vous poussent. Parce que le virtuel pousse plus vite que le réel. Le virtuel, c'est entre l'imagination délirante d'un romantique et le réel. On ne touche plus le réel, on est dans le virtuel. Tout ce qui pourrait arriver, tout ce qui pourrait se faire Et dans ce tout ce qui pourrait se faire, on fait certaines choses, mais on les fait toujours en raison relative d'un virtuel. Ça m'a beaucoup frappé. Parce que la vie religieuse met une muraille au virtuel. Elle vous plonge toujours dans le réel. On ne se couche pas trop tard, on se lève tôt. On fait oraison, on lutte contre le virtuel pour dire Dieu est. Et se mettre dans la lumière de la sagesse de Dieu. Dans la prière des psaumes, on est attentif aux cris du peuple de Dieu. Et en théologie, on vit de la foi, c'est pas le virtuel. La foi touche le réel, un réel éternel. Et c'est très vrai qu'il y a un développement très spécial de l'imaginaire. Parce que dans l'imaginaire, il n'y a pas beaucoup de traités sur l'imaginaire. Il n'y a pas beaucoup de traités sérieux. Aristote a fait le premier traité sur l'imagination. C'est-à-dire le premier qui a parlé vraiment de l'imaginaire. Platon, non, il est plongé dedans. Il est dans le virtuel, Platon. Tout le temps. Il est dans l'imaginaire. Et il a fait l'alliance entre les mathématiques et l'imaginaire. C'est l'âme platonicienne et c'est la séduction platonicienne. Platon a une séduction énorme dans notre monde d'aujourd'hui à cause de ça, par le point de vue mathématique. Et là, c'est vrai, il y a l'imaginaire poétique, artistique, qui est bon. Parce qu'on n'est pas poète, on n'est pas artiste sans imagination. Et l'imagination permet à un art très simple de s'imposer. Il nous fait vivre dans un monde qui est le monde de l'artiste. Bon, il y a cet imaginaire-là qui a l'avantage qu'un artiste réalise quelque chose. Un artiste qui reste purement auprès du feu à imaginer n'est pas un artiste. C'est justement, c'est la corruption de l'art. L'imaginaire peut corrompre l'art. Et je crois que on en voit des conséquences aujourd'hui. Il serait très intéressant d'étudier l'imaginaire dans tous les sens. L'imaginaire qui corrompt l'art poétique, l'imaginaire qui corrompt l'art architectural, l'imaginaire qui, dans tous les domaines, qui ne fait par rapport à l'architecture, par exemple, à la place d'être une architecture qui permet à l'homme d'avoir un milieu vital, par l'imaginaire, on crée un milieu qui soit irréel. Vous pourrez vous évader. Et c'est vrai, quand on voit certains immeubles aujourd'hui, à Paris, du côté de Charenton, il y a de ces immeubles qui sont extraordinaires. J'ai eu l'occasion d'y aller. Quelqu'un qui était dans cet immeuble-là, j'en ai profité pour le visiter, pour voir ce que c'est. Et c'est très extraordinaire. Oh, sous l'inverse de la maison, quoi. C'est ici une espèce de foule-camp partout, partout, partout. Alors que la maison est un lieu où on se recueille, où on se repose, où on est à l'abri. C'est ça, la maison. La hutte. C'est ça. Là, c'est ouvert à tout. Vous savez, les fenêtres qui vont jusque par terre, ça a l'air de rien du tout. Mais c'est très curieux comme effet au bout d'un certain temps. Le foule-camp. Les fenêtres qui prennent tout. Et des couloirs énormes. On a l'espace illimité dans une ville. Alors, là, au fond, on a l'impression que le couloir a plus de place que la maison. Où on est entouré d'espace tout le camp. C'est très curieux, ça. Et vous êtes sensible à ça. Bon, l'art, l'imaginaire dans l'art. L'imaginaire lié à la folie. Le fou, ce qu'on appelle le fou. L'homme exalté. L'homme qui perd pédale. Le fou, tout ce qui lui passe par la tête. Si vous voulez réaliser tout ce qui passe par votre tête dans la journée, je crois que vous serez vite fou en dehors. Hein. Alors, il y a cette imaginaire-là, c'est pas du tout un imaginaire artistique, celui-là. C'est un imaginaire qui, au contraire, ne veut rien réaliser. Parce que la réalisation est une détermination. C'est encore quelque chose de réel. Et vous heurtez la tête dessus. Alors, il y a l'imaginaire mathématique. Il y a l'imaginaire prudentiel. Oui. Je crois que l'imaginaire, l'intelligence, se développe selon les différentes sciences. Et c'est fou de voir le nombre de sciences qu'il y a actuellement. On veut tout scientifique. Quelqu'un me disait, je ne sais pas si c'est vrai, mais que tous les jours, il y avait une science nouvelle qui naissait. Un nouveau domaine qu'on veut rationaliser, qu'on veut dominer. C'est sûr que le domaine scientifique s'étend partout. Mais ce domaine scientifique s'étend partout, il peut s'étendre partout au point de vue imaginaire. Et quelquefois avec une imagination logique. Alors vous avez la logique qui se lie à l'imaginaire. Les mathématiques. On n'est pas dans un monde réel. J'ai beaucoup étudié avec le père Gérard Deslauriers qu'est-ce que c'est que l'être mathématique. Et c'est une question qu'on doit se poser. Quel est l'être mathématique? Bon, ce n'est pas l'être prudentiel. Qu'est-ce que c'est que l'être prudentiel à côté de l'être mathématique? Qu'est-ce que c'est que l'être métaphysique? Alors, il faut bien comprendre que ce domaine imaginaire qui, dans notre civilisation, si on appelle ça encore une civilisation, dans notre civilisation actuelle, prend tout. Et on veut que le petit enfant, garçon qui commence à grandir, commence très vite les mathématiques. Je crois que c'est dans les programmes nouveaux. Très vite, de former son intelligence aux mathématiques, en vue d'une efficacité plus grande et en vue aussi d'un développement mathématique qui se coupe du développement réel. Alors, dans un regard de sagesse chrétienne, les mathématiques sont intermédiaires. L'imagination est intermédiaire. C'est le métaxu. Dans le métaxu, revue métaxu, vous direz tout ce qui vous passe par la tête. Vous direz tout ce qui vous passe par l'imagination. Vous développez ce domaine intermédiaire. Ça peut être très utile dans des études sérieuses, comme ici, où alors on est tout le temps à se casser la tête, ou devant l'être réel, ou le point de vue de la foi, et on peut échapper. C'est vrai, la théologie, c'est la foi qui est là, qui montre toujours que vous ne pouvez pas aller plus loin. Alors, on a quelquefois besoin de respirer. Une bouffée d'oxygène mathématique, d'air mathématique, dans des bonbonnes spéciales, et ça vous fait du bien quelquefois. Alors, dans un regard chrétien, l'imaginaire doit être utilisé pour progresser. Mais l'imaginaire, quand il n'est pas ordonné à quelque chose de réel, peut être très dangereux. On peut vivre toute une vie dans l'imaginaire. Même quand on est religieux, on accepte ce cadre, on l'accepte comme un cadre. Et puis, au-dedans, on vous laisse le temps de méditer le matin, un très bon temps pour l'imaginaire. On accepte l'imaginaire, on l'accepte, c'est intéressant. Le soir, c'est plus vaporeux, mais c'est pas plus mal, au point de vue imaginaire. Là, vous voyez, c'est très dangereux l'imagination, au point de vue chrétien, sagesse chrétienne. Parce qu'elle vous fait dévier dans un monde infini. Il n'y a pas de limite dans l'imaginaire. L'imaginaire est utile, mais toujours de l'ordre utile. L'imaginaire est ordonné à autre chose. Quand l'imaginaire n'est pas ordonné à autre chose, l'imaginaire est ordonné à la vie pratique. Quand vous faites la cuisine, c'est très bien d'imaginer un repas extraordinaire pour vos convives. C'est très bien, mais vous êtes limité parce que vous n'avez pas tout sous la main, donc vous êtes très limité. Et puis, vous savez qu'à telle heure, ça doit être prêt. Alors, l'imaginaire est utile dans la vie. Quelqu'un qui n'aurait aucun imaginaire, il serait très ennuyeux. Il serait très ennuyeux pour la prudence. Il serait très ennuyeux pour l'art. Il serait très ennuyeux pour la vie commune. en récréation, l'imaginaire doit marcher. Vous pouvez raconter vos rêves, s'ils sont beaux. Racontez vos songes qui annoncent la fin du monde. Vous voyez, ou la fin d'un temps, au moins. L'ère chrétienne s'achève. Le berceau de l'ère chrétienne était l'Europe, et l'Europe refuse. L'Europe devenue grande, devenue consciente elle-même, refuse qu'on parle de ses origines. Ben, l'Europe s'est enrichie. Et elle désire s'enrichir plus et rejoindre l'Amérique. Elle ne rejoindra jamais. Parce que pour s'enrichir, il faut du temps. Et donc, ce qui s'est enrichi avant restera toujours enrichi avant. Mais il y a ça dans l'Europe. Espèce de vouloir à tout prix garder sa dignité, son rang d'Europe. C'est très curieux, un imaginaire collectif. Créer un mythe. Le mythe, c'est ça. C'est l'imaginaire collectif. Alors, c'est très dangereux pour la vie chrétienne, parce que la vie chrétienne est tout entière finalisée. Le plus grand ennemi pour la finalité, c'est l'imaginaire. Alors, est-ce le démon ? Qu'en est au principe ? L'imaginaire qui prend tout, c'est la tentation de l'exaltation. C'est le moi qui prend tout, imaginativement. Donc alors, à ce moment-là, c'est nettement le démon. Quand l'imaginaire est dressé contre la vie chrétienne, on peut dire que c'est le démon. Donc, vous voyez, l'imaginaire, c'est très, très important et c'est aussi ce dont doit être le plus à surveiller. Pourriez-vous situer la distinction entre l'éducation et la paternité spirituelle par rapport à la prudence ? L'éducation humaine doit être prudentielle. Donc la prudence, c'est la petite sagesse de l'éducation. La prudence est tout dans l'homme. La vraie prudence, pas la prudence qui consiste à tout ramener à nous-mêmes. La paternité spirituelle, elle est en vue de la sagesse divine. Un père spirituel doit être sage et permettre à son fileté ou sa fileté d'être totalement ordonnée à la sagesse. La paternité spirituelle est entièrement dépendant de la sagesse divine, de la sagesse de la croix. Et tout doit être en référence avec la sagesse de la croix. Donc, vous voyez, c'est la différence qui existe entre la sagesse contemplative et la sagesse pratique, la petite sagesse. La prudence est considérée par les anciens comme une sagesse pratique. et le christianisme a apporté la sagesse contemplative. Et avant le christianisme, Aristote affirmait une sagesse contemplative philosophique. Donc il faut bien comprendre ça. Donc, au point de vue éducatif, on doit toujours faire comprendre l'exigence d'une sagesse pratique et l'exigence d'une sagesse contemplative. Si vous voulez vraiment éduquer quelqu'un chrétiennement, si vous voulez l'éduquer uniquement humainement, vous ne parlez plus de la sagesse contemplative, ou très rarement. Parce que ceux qui arrivent à une contemplation vraiment philosophique, à une sagesse philosophique, ils sont rares. Pas pour vous, vous devez tous arriver à la sagesse philosophique, tous. Pas à la fin de vos études ici, non, mais quand vous aurez 40 ans, vous devez tous arriver à la sagesse contemplative. C'est pour vous. Si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous n'avez pas voulu y arriver. Vous n'avez pas fait l'effort d'y arriver. Vous devez tendre vers la sagesse contemplative, philosophique. Elle est pour vous. Elle est pour vous, elle est pour l'Église. Et cette sagesse philosophique s'incline devant la sagesse chrétienne. Comment la prudence serait-elle modifiée dans son exercice dans la personne chrétienne? La prudence chrétienne est modifiée dans son exercice par la sagesse chrétienne, parce qu'elle est ordonnée à la sagesse chrétienne. Pratiquement, si je suis chrétien, ma prudence est chrétienne, et ma prudence chrétienne éclairée par la foi est capable d'assumer la prudence humaine, la petite sagesse pratique, de l'assumer à un point de vue chrétien. Et donc, d'ordonner la sagesse philosophique à la sagesse chrétienne. Ce qui se fait automatiquement en théologie. Au fond, la théologie doit vous aider à faire ce changement, cette transformation. La théologie pratique, il n'y a rien de plus pratique que la théologie, puisqu'elle est commandée par la foi. La foi est pratique. Rien ne peut être plus assumable que la sagesse théologique par rapport à la sagesse pratique. et même ajoutons par rapport à la sagesse spéculative. Est-ce que chaque dimension de la personne prendra une nouvelle différence, prendra une note différente pour le chrétien? Par le point de vue de la finalité, nous n'avons qu'une seule fin, la fin chrétienne. Je n'ai pas comme fin la contemplation. Et ce n'est pas ma fin. Et c'est ma finalité chrétienne qui l'emporte. Et ma finalité chrétienne, alors, ordonne ma philosophie entièrement à cette sagesse chrétienne. C'est pour cela que la sagesse théologique est nécessairement différente si ma sagesse philosophique est différente. C'est différent. Je vous donne l'exemple. La philosophie, à partir de saint Thomas, à partir de ce disciple de saint Thomas qui a dit la causalité finale est métaphorique. Il a fait que tout le thomisme le plus authentique a été faussé. Il a considéré la causalité finale comme métaphorique. Le jour où on s'aperçoit ça et qu'on est loyal, on n'a pas le droit de considérer encore la causalité finale comme métaphorique, puisque on sait que ce n'est pas du saint Thomas. Ça a été un apport extrinsèque qui a été assimilé. On doit repenser toute sa philosophie avec la finalité, qui est une finalité première. Et si la métaphysique est changée, la théologie elle-même est changée. La foi garde son caractère et la foi assume la philosophie en théologie. Qu'est-ce qui est assumé par la théologie? Qu'est-ce qui est assumé par la foi? Qu'est-ce qui peut être assumé par la foi? Il faut se poser la question. On n'a pas le droit de ne pas se la poser. Qu'est-ce qui peut être assumé par la foi? Est-ce que par la foi, je peux assumer une philosophie qui ne recherche plus la vérité? Est-ce que je peux assumer par la foi une philosophie qui ne recherche plus à être vrai? Si j'assume par la foi une philosophie qui ne cherche plus la vérité, ma théologie est bancale et donc fausse. Je crois que l'encyclique du pape à ce propos-là, fidèle, cette ratio est très nette. Comment voulez-vous que la foi assume une philosophie bancale sans donner une théologie bancale? Et si la foi assume une philosophie bancale, elle ne peut pas donner une philosophie chrétienne, une théologie vraie. Donc, on est responsable de cela. Parce que ça, on peut le comprendre. Tout théologien doit comprendre cela. Que la théologie se modifie suivant la philosophie qu'on assume. Suivant que cette philosophie assumée est différente, ma théologie sera différente. Mais si ma philosophie n'est pas vraie, ma théologie ne sera pas vraie. C'est bien de mettre vos questions. Donc, nous avons vu comment la prudence est assumée, du moins que la prudence est un élément nécessaire de la personne. Prudence est considérée par les anciens comme la sagesse pratique. Parce que la prudence est commandée par la finalité. Ça, il faut être farouche là-dessus. Je ne suis prudent que lorsque je mets les différents moyens qui sont à ma disposition en vue de ma fin. Donc la prudence a ce caractère particulier d'assumer les moyens que je peux employer directement en vue de telle fin qui m'est donnée surnaturellement. La prudence est donc toujours une relation. Elle met en relation des moyens avec la fin. Et être prudent, c'est donc avoir vu nettement quelle est ma fin. Un homme qui ne voit pas quelle est sa fin propre ne peut pas être prudent. C'est assez farouche au moment des élections. Tout homme qui se présente avec une négation de la fin propre de l'homme. La fin propre de l'homme ne peut être que la contemplation et l'amitié. La fin de l'homme n'est pas gagner d'argent. Il faut en avoir suffisamment pour vivre. Remplacer la fin propre de l'homme l'épanouissement caractéristique de l'intelligence et de la volonté en vue d'atteindre ma fin. Quitter ce point de vue-là et regarder uniquement une fin flatteuse, gagner de l'argent, avoir un bon renom, être considéré comme quelqu'un d'important. Tout ça, c'est des ersatz de la finalité. Ce n'est pas la finalité. La finalité ne peut être que l'épanouissement de mon âme spirituelle, recherche de la vérité, recherche de la finalité, d'une finalité vraie, d'une finalité correcte. Donc, celui qui ne voit pas quelle est la finalité propre de l'homme ne peut pas être prudent. Et la prudence politique implique la prudence personnelle. On ne peut pas être un homme politique prudent si on n'est pas un homme tout simplement prudent. La prudence est donc quelque chose d'extrêmement important pour nous, puisqu'elle permet de voir comment ma finalité transforme toute ma vie. Comment la finalité est le levain qui fait lever toute la pâte. Comment la finalité donne un sens aux moindres activités. La prudence fait que je me nourris bien pour pouvoir travailler. Est-ce prudent, par exemple, on commence le carême? Vous devez travailler, c'est sûr, c'est votre devoir, et travailler intellectuellement. Si en jeûnant d'une façon très forte, vous n'arriviez plus à travailler, est-ce que ce serait votre devoir de jeûner? Si on est un homme vertueux et qu'on sait qu'on a absolument besoin de manger quand même un petit peu pour pouvoir travailler et que la matinée ne soit pas un moment où on ne peut rien faire du tout parce qu'on n'a pas mangé. Un homme vertueux sait cela. Un homme prudent sait cela. Mais pas changer du jour au lendemain. Alors, il essaiera d'équilibrer sa vie d'une autre manière. Il y a un jeûne sur les aliments, il y a un jeûne sur les paroles. Hein? Être silencieux pendant toute la matinée pour mieux travailler, pour prier plus. C'est une terrible pénitence. Quand on est à côté d'un frère qu'on aime bien, on essaie. Alors l'homme prudent fait ça. Il fait que si on ne peut pas faire un effort du côté de la nourriture, on fait un effort du côté de la nourriture fraternelle, assez, c'est merveilleusement intelligent de pouvoir faire ça. Et ça, c'est la prudence. La prudence fait qu'on connaît ses qualités et ses défauts. On connaît ses tendances. Si on me laissait complètement libre et faussement libre, je ferais ceci, cela. Mais je ne fais pas parce que je recherche cette finalité. La finalité de chrétien, c'est d'être saint. L'exigence. Alors, à cause de ma sainteté que je veux à tout prix, je vais essayer de jeûner un tout petit peu. Juste assez pour avoir le ventre creux à la fin de la matinée. Mais quand même, suffisamment pour pouvoir travailler. Et ça, ça dépend de chacun. C'est pour ça qu'on ne doit jamais juger. Il y a des gens qui travaillent beaucoup mieux n'ayant rien mangé le matin. Et des gens qui, s'ils n'ont rien pris de chaud, seront malades. Ils penseront toute la matinée, je n'ai pas mangé ce matin, je n'ai pas mangé ce matin, je n'ai pas mangé ce matin. Je crève de famine. Alors, c'est une méditation plutôt à éviter. Parce qu'elle ne vous fait pas atteindre vraiment votre finalité. Elle fait vous regarder. La prudence fait qu'on est intelligent pour soi. Être intelligent pour soi. Et par rapport à l'obéissance de la loi, de l'obéissance à la vie commune, on sait qu'on peut remplacer tel genre d'ascèse par tel autre genre d'ascèse. Mais on maintient tout le temps dans sa vie une certaine ascèse. Ça, c'est l'homme prudent. Parce que si on ne la maintient pas du tout et que je fais ce que je veux dans tous les domaines, on devient insupportable pour son voisin. Alors, ils ont au moins cette charité fraternelle. Et on est insupportable pour Dieu. Donc, l'homme prudent, c'est une très grande qualité, la prudence. C'est par rapport à sa vie concrète, on maintient ce dominium. On est responsable de sa vie. On est responsable de ses occupations. On est responsable de les ordonner de telle ou telle façon.